du monde d'avant. Qui vendent-ils ? Sur France Inter.
De Oruro a Stalla era el lago de nosotros.
Avant, le lac, il allait de Oruro jusqu'ici.
Largo hasta aquí.
Et c'était un lac très grand et c'était notre lac.
Pero nos ha quitado todo.
Mais là, ils nous l'ont enlevé.
Épisode 4. Bolivie, quand l'altiplano a chaud.
Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode, cette fois dans la Cordillère des Andes, en Bolivie. Avec en tête cette question absurde. Comment être un peuple du lac quand il n'y a plus de lac ? C'est la question existentielle qui ronge le peuple Uru. Eux qui ont toujours vécu dans la région, avant même la venue des Quechua, des Aymara et des Conquistadors, survivent aujourd'hui dans les mirages de paysages fantômes. Le second lac du pays a presque entièrement disparu, évaporé. Car dans les hauts plateaux boliviens, où l'augmentation des températures est deux fois plus importante que la moyenne globale, on subit de plein fouet l'accélération de changements environnementaux d'échelle géologique et provoqués par l'homme. D'un glacier disparu à un lac qui suffoque jusqu'à ce tout nouveau désert, première étape d'un parcours entre les causes et les conséquences, à une vingtaine de kilomètres de La Paz, à 5240 mètres d'altitude, très exactement sur le mont Chacaltaya, où se trouvait il y a quelques années encore la plus haute piste de ski au monde et qui a aujourd'hui complètement fondu, tout comme 40% des glaciers boliviens, et où un laboratoire international étudie le changement climatique jusque dans les particules de l'atmosphère. Alors, jusqu'à 19h sur France Inter, enfant, j'aurais adoré dire ça à la radio. Du Titicaca au lac Popo, je reviens du monde d'avant, tout en haut de l'altiplano.
Señora, caballero, llévese la señorita Francia, este gatito a tan solo 5 bolivianos. La señorita, llévese la señorita Francia, este gatito.
Adelante, el sentimiento que llamo Astoria con nuestra cultura pampeña.
La Cordillère des Andes sur un fil d'eau.
Ce bruit là, ce petit goutte à goutte, c'est le peu de neige du glacier Chacaltaya, déclaré mort comme d'autres glaciers auparavant, qui fond encore.
Officiellement, en 2008, Chacaltaya a dejó de ser un glacier.
C'est en 2008 que ça a été déclaré officiellement que Chacaltaya n'est plus un glacier.
Le réchauffement climatique se mesure chaque année à la fonte des glaciers, dans les Andes par exemple, en Bolivie.
En Bolivie, la cordillère des Andes n'échappe pas au réchauffement climatique.
Chacaltaya est cette montagne. Le laboratorio está en prácticamente la cima de la montaña.
Notre laboratoire est tout en haut de cette montagne.
À 5240 mètres.
À 5240 mètres.
Et c'est là où vous nous emmenez ?
Es donde vamos a ir ahora.
Il nous emmène au sommet du glacier bolivien Chacaltaya à près de 5300 mètres d'altitude.
The Chacaltaya Glacier in Bolivia has become a victim of climate change.
Victime du réchauffement climatique, le glacier Chacaltaya a fondu beaucoup plus rapidement que les prévisions des scientifiques.
Il y a encore une dizaine d'années, c'était la station de ski la plus élevée au monde.
Bolivia's only ski resort was once the highest in the world.
La piste est définitivement fermée. Quant au glacier, voici ce qu'il en reste.
Mais aujourd'hui, voici tout ce qu'il en reste.
Ouh, on a la tête qui tourne là avec le manque d'oxygène, même si le vent nous bat ici, tout en haut, à 5240 mètres d'altitude. Et ici, en fait, on est près de 500 mètres au-dessus du Mont Blanc, pour avoir une idée.
Ahora estamos en casi la cima de la montaña Chacaltaya.
Alors ici, on est quasiment au sommet de la montagne Chacaltaya, au niveau du club Andino, qui est un club de ski qui maintenant seulement des cailloux.
C'est ça, c'était la station de ski la plus haute du monde pour quelques touristes un peu privilégiés. Sauf que maintenant, c'est plus possible de faire du ski ici parce que la neige, la glace du Chacaltaya a disparu. Les études montrent que 40% des glaciers de la cordillère des Andes ont fondu comme le Chacaltaya qui était normalement là. On voit plus quelques petites poches de neige. Et ça, c'est une des conséquences du réchauffement climatique global, c'est ça?
Exactement. Me llamo Fernando Velarde.
Je m'appelle Fernando Velarde. Je travaille à l'université Mayor Sant Andrés de La Paz.
Esto del calentamiento global es algo evidente. Entonces, no es un hecho que se pueda negar.
Le réchauffement climatique, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. C'est un phénomène réel.
Una de esas maneras en la que la Tierra está respondiendo es que los glaciares se están deshiciendo.
Y una de sus consecuencias es la fonte de glaciares.
El agua, la ciudad de La Paz y El Alto son un poco más de 2 millones de habitantes que tienen una demanda de agua cada vez mayor.
La aglomeración La Paz y El Alto fait plus de 2 millones de habitantes y la demanda en eau est de plus en plus forte.
Y el agua que nos viene a las ciudades proviene de diferentes fuentes.
Et cette eau provient à la fois des glaciers et des zones humides.
En los últimos 10 años hemos tenido 3 gestiones en las cuales hemos tenido escasez de agua.
Et ces 10 dernières années, on a eu 3 moments où on a eu des fortes pénuries d'eau qui sont dues à ce manque de pluie.
Si llegamos al punto sin retorno, todos los planes de acción que hagamos ya no van a ser para mitigar el problema.
Oui, parce que si on arrive au point de non-retour, il n'y a plus de moyen de diminuer ces effets.
Mucho más costoso que mitigación.
Il faudra seulement s'adapter et ce sera beaucoup plus coûteux.
Mais en tout cas, là, c'est saisissant, ce paysage avec une mer de caillasses qui descend en pente et tout en bas, à plus de 1500 mètres d'ici, on voit l'agglomération gigantesque de La Paz et d'El Alto au-dessus. Et là, on voit effectivement qu'il y a le sommet du Chacaltaya n'est couvert que de quelques petites touches de neige et tout le reste, c'est de la pierre.
Pendant des milliers d'années, les glaciers boliviens ont été considérés comme des entités sacrées. Elles offrent certains des paysages les plus spectaculaires au monde, ainsi qu'une commodité encore plus précieuse, de l'eau.
Pénurie d'eau potable, mais aussi augmentation du niveau des mers, sans compter les risques d'inondation et la sécheresse. La disparition des glaciers aura de graves conséquences pour les Boliviens.
Ça monte un peu et on est essoufflé. On marche sur la pierre, il reste un tout petit peu de neige, mais c'est par petites poches, quoi.
Mi nombre es Marcos Andrade.
Je m'appelle Marcos Andrade.
Y estoy trabajando con el laboratorio.
J'étudie depuis plus de 25 ans ici, dans ce laboratoire,
para medir la composición de la atmósfera.
Pour recueillir des données sur l'atmosphère.
Et l'objectif de ces données atmosphériques que vous faites, c'est comprendre et décrypter les phénomènes de changement climatique en cours.
Y por supuesto, lo que se emite gases de efecto invernadero a nivel mundial.
Les gaz à effet de serre ont des effets au niveau mondial et particulièrement sur les glaciers. Et à partir de cela, nous étudions les impacts du changement climatique.
Ah, on va visiter. Et on rentre dans le labo. Alors c'est rustique parce qu'on est à 5000 mètres d'altitude.
Esto debe ser el año 45, ¿no? Y se puede ver que había mucha más nieve. Y...
Ah, ça c'est les photos qui ont été prises ici même dans 1945.
Esto está, aquí se ve la construcción del observatorio y utilizan llamas para traer material.
On voit des lamas qui étaient amenés pour porter les matériaux de construction de ce laboratoire. Et on voit, à l'époque, il y avait encore le glacier ici.
Sí, era más frío.
Faisait beaucoup plus froid. que maintenant. C'est vrai que là, vous étiez dehors, vous étiez en peine en petit blouson.
Voilà pour ça. Et on rentre dans un laboratoire avec tout un tas de machines, d'écrans, d'ordinateurs, de câbles, de bonbonnes, là, de gaz.
Sí, tenemos equipos aquí como este que mide la concentración del famoso gas de efecto invernadero, el dióxido de carbono.
Ici, on a un appareil qui calcule la concentration de gaz à effet de serre le plus connu, le dióxido de carbono.
Et alors là, qu'est-ce qu'il dit là aujourd'hui par exemple?
Por ejemplo, hoy, 408 partes por millón.
Ici, on a une concentration aujourd'hui de 408 ppm.
Sí, para poner en contexto, normalmente, en el pasado, en los últimos 800.000 años,
dans les époques interglaciaires qui ont duré environ les derniers 800 milliers d'années, on était à 280 ppm.
Ppm, ça veut dire partie par million.
Desde 1800, esta concentración de gas ha ido subiendo.
Et depuis les années 1800, cette concentration de gaz n'a cessé d'augmenter.
Pendant qu'on parle, on voit le taux qui passe de 408-242, après 408-253. On voit en temps réel les chiffres avec les courbes qui montent.
Estos equipos igual funcionan todo el tiempo midiendo lo que pasa. Podemos ver.
Ces appareils fonctionnent 24 heures sur 24. Ils mesurent ici, tout en haut de la montagne, les particules émises par la ville de La Paz et surtout del Alto, en contrebas.
Antes de las 9 de la mañana.
Avant 9 heures du matin, on voit que le niveau de particules de carbone dans l'atmosphère est assez bas. Et après, on voit la courbe rouge qui pointe comme un pic.
En promedio, dos horas.
C'est ça, ça correspond à des gens qui vont travailler en ville chaque jour et ça fait un boom deux heures après. C'est pic de CO2. Et c'est quoi ces pics qu'on voit ici là?
Entonces, cuando ustedes llegaron, se da cuenta.
Le pic là correspond à notre arrivée en voiture.
C'est-à-dire que l'appareil est tellement sensible qu'il a mesuré là, en temps réel notre arrivée dans le périmètre du laboratoire.
Oui. Y allá atrás tenemos un equipo que mide partículas aún más pequeñas.
Là-bas, on a un autre appareil qui mesure des particules plus fines.
Estas partículas pequeñas son muy importantes en la atmósfera en general.
Ces particules sont très importantes.
Porque el agua se condensa en estas partículas.
Car l'eau se condense dans ces particules.
Si no hubieran esas partículas, sería más difícil tener nubes.
Et donc, s'il n'y avait pas ces particules, ce serait plus difficile d'avoir des nuages.
C'est-à-dire que c'est ce qui provoque la pluie. Et voilà pourquoi elles sont essentielles.
Sí, para el clima y para pronosticar el tiempo también.
Pour le climat et pour prévoir la météo.
Entiendo bien, sí, el CO2 se va a quedar mucho tiempo aunque paremos todas las emisiones ahora.
Ce que disent beaucoup de chercheurs, c'est que même si on arrêtait aujourd'hui toutes les émissions industrielles de CO2 humaines, il faudrait un siècle pour que les effets commencent à se faire ressentir.
Exactamente.
Avouez que c'est un comble. Déjà, de redescendre à 4000 mètres d'altitude. Mais surtout, de se retrouver dans les embouteillages délirants d'El Alto en se disant qu'une partie de ces gaz d'échappement seront encore là dans 100 ans. El Alto, qui n'était qu'un faubourg surplombant La Paz à la fin des années 80, a depuis dépassé la capitale administrative avec plus d'un million d'habitants, principalement Aymara, qui rendent cette nouvelle capitale indienne vibrante et tentaculaire. Mais il y a une soixantaine de kilomètres de là, à la frontière avec le Pérou, le lac Titicaca, le plus haut lac navigable du monde, le berceau de la civilisation Inca, en subit les conséquences. Ce lieu magique où nous emmène Xavier Lazaro, chercheur en hydrobiologie, est aujourd'hui au bord de l'asphyxie.
En Amérique Sud, la cordillère des Andes domine la côte occidentale sur une longueur de plus de 7000 km.
Ça tombait par terre de beauté.
Au milieu de ces montagnes,
c'est vraiment magnifique, hein.
On trouve un immense lac parsemé d'îles.
C'est le lac Titicaca.
C'est le lac Titicaca.
C'est pas frappé.
À 3800 mètres d'altitude entre Pérou et Bolivie,
ce lac est une véritable mer intérieure.
Le plus haut lac navigable du monde.
Et qui a ses tempêtes, ses ports et ses pêcheurs.
Évidemment, il y a l'attrait du nom. Enfin, ça ne suffirait pas.
3008, on est là ?
3008, oui.
Et là, on voit les grettes qui passent en volant devant nous, là, avec ses ailes blanches. C'est très majestueux.
C'est très beau.
Et ce qui est impressionnant, c'est que là, on voit à perte de vue ce lac avec ses petits îlots où poussent les joncs. Ça s'appelle comment les
Totoras.
Les Totoras. Et derrière, la grande cordillère qui est couverte de neige avec ses pointes acérées là, qui se mêlent dans les nuages.
Et au-dessus du lac, il y a un grand ciel bleu. Difficile de ne pas tomber amoureux de ce coin.
Et alors Xavier Lazaro, ce lac magnifique sur lequel vous le travaillez depuis des années, il est aujourd'hui menacé.
Il est menacé, ça paraît incroyable, parce qu'un lac à 3008 entre deux cordillères, on peut dire, ben non, il peut rien lui arriver. Et en fait, si, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 80-90, une ville s'est créée qui s'appelle l'Alto. C'était la banlieue de La Paz et qui a grandi démesurément et qui est maintenant plus grande que La Paz puisqu'elle fait plus d'un million d'habitants. Et les rivières qui descendent de la cordillère en traversant l'Alto récupèrent toutes les eaux usées domestiques mais aussi industrielles et agricoles dans le bas. Et malheureusement, il n'y a qu'une station d'épuration qui est au bord du collapse. Et donc les eaux arrivent pratiquement crues dans le lac et donc ça fait beaucoup de dégâts. Ah mince.
Merde, ça fait beaucoup de dégâts. On se fait dégager, on saura la suite au prochain épisode.
Sur l'altiplano, les paysans indiens, Quechua et Aymara ont l'habitude de se plier aux caprices de la nature.
Mais depuis quelques années, le lac devient vert, le lac suffoque. Les algues se multiplient dangereusement, déréglant complètement la vie du lac et son apparence.
Quant aux pêcheurs, ils sont restés fidèles à leurs barques ancestrales.
Le lac leur fournit avec son poisson quotidien quelques sous par mois.
Oscar.
Buenas tardes.
Et parlez-moi un peu du village ici.
El pueblo es el pueblo de Chitoquehuaya.
Ici, c'est la communauté de Chitoquehuaya.
Una suma de 236 habitants.
Alors, il y a 236 habitants.
La actividad de la población es pesca.
Ici, on est pêcheurs et agriculteurs.
Sí, yo estoy luchando por la preservación del lago Titicaca porque el lago.
Oui, je lutte pour la protection du lac parce qu'il y a de plus en plus de pollution.
Va cambiando por cada año.
Et là, on se rend compte que la couleur change chaque année. Elle est de plus en plus verte.
Sí.
Et alors pour les pêcheurs, ça a quelles conséquences tout ça?
Consecuencia del pesce se está perdiendo por la contaminación.
Du coup, il y a moins en moins de poissons à cause de la pollution.
Se attrape apenas 20 pescados.
Maintenant, on n'attrape plus que vingtaine de poissons qui sont pas très grands.
Ils sont tout petits là, vous me montrez.
Sí. Et otro totalmente se perdió dos peces.
Et il y a deux poissons qui ont disparu.
Año y el pesce.
Ça, on n'en trouve plus. Donc, en fait, vous, ici, les habitants, chaque année, vous voyez votre environnement qui est petit à petit détruit.
Si, era también pescador, pero hoy soy artesano en Totora.
Ah oui, le moyen de subsistance diminue chaque année. Et c'est pour ça que moi, avant, j'étais pêcheur et maintenant, je me dédie à l'artisanat.
Ah, vous tressez de le Totora, vous faites des vanneries en Totora.
Barquitos de Totora, llamitas de Totora. Aves de Totora, sombreros de Totora, paneros de Totora.
Ça, c'est tout ce que vous faites, des paniers, des petits boiteaux, des petits chapeaux, tout ça en Totora. Et on arrive à vivre avec ça, le village? Avec moins de poissons, est-ce que le village arrive à vivre?
C'est un peu migration de la gente joven.
Oui, les jeunes quittent le village pour aller ailleurs parce qu'il n'y a plus de travail.
Donc le village est en train de se vider petit à petit. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Là, on a essayé de parler avec le vieux monsieur et la dame qui me parlent Caïmara. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup de jeunes. Et là, dans le village, la vie est toute tranquille. Il y a le monsieur qui passe avec sa brouette et son ciment et sa caisse de coca. Mais ce n'est pas du Coca-Cola, c'est du Coca-Quina. La version bolivienne du Coca-Cola. Et quand j'ai demandé si c'était bon, on m'a dit « Oh oui, c'est aussi mauvais que le Coca-Cola. » Orgullosamente boliviana. Et comment vous l'appelez, vous, le lac? C'est Titicaca ou il y a une autre manière de le dire en Aymara?
En Aymara, j'avais la map Kakatiti.
En Aymara, nous, on dit le lac Kakatiti.
Ah, c'est à l'envers. Kakatiti.
Kakatiti.
Gracias.
Gracias.
On va voir alors.
Allons-y.
On monte à bord de l'embarcation. Il y a tout un tas d'appareils.
Bon, voilà, on est sur notre super yacht.
Je reviens du monde d'avant. Bolivie, le Titicaca au bord de l'asphyxie.
Donc là, on est un peu plus bas dans la baie de Cumana. Vous voyez, c'est une baie très peu profonde et ça reçoit toutes les eaux usées de la ville. Donc, comme vous voyez, l'eau extrêmement turbide.
Marronasse.
Donc ça favorise les algues et ça favorise ce qu'on appelle l'eutrophisation. Le développement de micro-algues ou aussi le développement de plantes aquatiques flottantes. La lumière ne pénètre plus, donc il n'y a plus de photosynthèse dans l'eau. Et donc, ça crée des zones mortes au fond. Donc ça accélère vraiment la mort de la zone littorale.
Là, Xavier Lazaro, on est en plein dans une illustration de l'Anthropocène.
Voilà, l'Anthropocène, parce qu'on a une combinaison, un effet anthropique, dû aux gens qui vont transformer les rives du lac, et donc qui vont détruire toutes les plantes aquatiques, et donc les endroits où les poissons se reproduisent, ou les oiseaux. Plus, ce qui se passe, c'est qu'ici, quand on se trouve en latitude tropicale, 16 degrés sud, et en altitude, c'est les régions du monde qui sont les plus impactées par le réchauffement climatique. Parce que le réchauffement climatique au niveau de l'altiplano est deux fois la moyenne de la planète. Et ce qui est embêtant, c'est que ici, la plupart des espèces végétales ou animales que vous voyez sont endémiques. Donc une fois qu'elles ont disparu, rien ne viendra remplacer ce qui était ici. Et il y a par exemple plein d'espèces de grenouilles du lac Titicaca. Bon, 40 ans en arrière, je me souviens, elles étaient énormes, vraiment une grenouille...
Là, vous êtes en train de monter de la taille d'un crapaud buffle.
Voilà, un crapaud buffle, voilà.
Il n'en existe pas d'aussi gros au monde.
Et il y en avait plusieurs par mètre carré. Enfin, c'était vraiment impressionnant.
Répondant au nom scientifique et barbare de Thelmatobius culeus, ces crapauds sont uniques au monde.
La pollution a commencé à les atteindre, mais aussi les gens ont eu l'idée que manger des grenouilles, c'était aphrodisiaque. Et donc,
c'est toujours les problèmes de libido qui provoquent les disparitions des espèces. C'est toujours les hommes avec leurs quéquettes, là.
Voilà. Et ça n'a jamais été démontré, en plus, que ça avait un effet.
La population totale du lac Titicaca peut être estimée à 1 milliard de crapauds.
Et malheureusement, bon, on en voit de moins en moins. On a vu quelques petites grenouilles de temps en temps, mais ce qu'il y avait avant, il n'y a plus, non. Bon, c'est malheureux. Cet endroit est absolument magnifique. Il a permis à des millions de personnes de vivre jusqu'à présent de façon digne. Donc ici, c'était un endroit très productif. Et c'est pour ça que ça a permis à la civilisation Inca et d'autres civilisations, Tiwanakota, etc., de se développer. Il y avait vraiment tout ce qu'il fallait. Pendant une trentaine ou une quarantaine d'années, fièrement, nous allons achever ce que des millénaires ont créé ici. Ça paraît incroyable. Ce que les gens du coin y disent, c'est quand même dommage. Nos parents, nos arrière-grands-parents venaient faire des offrandes au lac et maintenant, nous, ce qu'on offre, c'est des ordures. C'est quand même assez lamentable. Bon, j'espère qu'on lèguera à nos petits-enfants quelque chose de quand même pas trop mal parce que sinon, ils vont dire « Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait à l'époque ? Comment c'est possible que vous ayez laissé tout ça partir en poussière ? C'est incroyable !»
Je reviens du monde d'avant sur France Inter.
Están enterrando el río, su lecho es como un panteón, de plástico su mortaja, de óxido su cajón, una corona de trapos, las flores de papel, le han dejado el chuquillapu, la retama y el laurel, agua que no has de beber. Déjala para la sed del que va a nacer. Agua que no has de beber, déjala correr. Déjala para la sed del que va a nacer.
El funeral del río, chante Luis Rico. Les obsèques de la rivière. Alors si le lac Titicaca peut encore s'en sortir, cette oraison funèbre sonne juste pour le second lac de Bolivie, plus au sud, avec un nom qui pourrait lui aussi faire ricaner des générations d'écoliers s'il existait encore, le lac Popo. Ce lac, qui faisait encore 1300 km² en 2014, a désormais presque entièrement disparu. Un désastre environnemental qui rappelle la mer d'Aral en Asie centrale. Un désastre prévu, attisé par la sécheresse, mais qu'on a précipité en y déversant chaque année 5 millions de mètres cubes de sédiments miniers, ainsi qu'en détournant plus de la moitié de son alimentation en eau pour la culture du quinoa et son exportation. Toute vie a disparu. Près de 200 espèces d'oiseaux, de mammifères et de poissons ont été rayées du paysage. Alors pour le peuple Uru, les premiers habitants de la région qui ont toujours vécu là, de la chasse et de la pêche, ça veut dire non seulement la fin de leur principale source de subsistance, mais surtout de toute une partie de leur identité.
Y ahora tenemos que hablar de este lago muy conocido en Bolivia que se llama Popo.
En Bolivie, le lac Popo, qui s'étendait sur une surface de 1300 km², a laissé la place à une vaste étendue desséchée.
Frappée par la sécheresse, la disparition pure et simple d'un lac.
Autrefois long de 84 km et large de 55 km, le lac Popo est aujourd'hui parfaitement asséché.
Que se secó por completo.
L'origine de ce désastre naturel,
la sécheresse prolongée,
mais aussi l'activité humaine aux abords du lac.
Buen día.
Les pêcheurs de cette région expliquent être des réfugiés du changement climatique.
La vie s'est comme arrêtée.
Et la majorité a quitté la région pour aller chercher du travail ailleurs.
Et on entend le poulet là qui chante.
Buen día.
Ah, hola. Yo me llamo Rosemary Choque.
Je m'appelle Rosemary Choque.
Esta es mi comunidad, Puñaca Tinta María.
Et voici ma communauté, Puñaca de Tinta María.
De los Urus, parce qu'aquí, al lago siempre vivía.
Nous, on fait partie des Urus et on a toujours vécu du lac, au bord du lac, de la pêche et de la chasse. On a toujours vécu de ça.
Sí, los Urus eran antes siempre, antes que llegue el sol.
Oui, les Urus, ils ont toujours été là, depuis l'arrivée du soleil, depuis le Christ.
Era antiguamente, era pues.
C'est depuis très très longtemps.
Sí.
Le lac, il est où?
El lago está más allá, lejos.
Le lac, il est très loin d'ici.
Y ya no hay lago ahora, por cierto, no se ha secado todo.
Puis de toutes les façons, il n'y a plus de lac, il est sec.
Parce que là, ce que je vois de là, c'est un paysage effectivement très sec. On est contre des collines et derrière nous, il y a une espèce d'un énorme terrain vague à perte de vue, comme un désert. C'était ça le lac avant?
Sí, de Oruro hasta allá era el lago de nosotros.
Avant, le lac, il allait de Oruro, la ville qui est beaucoup plus loin, jusqu'ici.
Largo hasta aquí siempre.
Et c'était un lac très grand, et c'était notre lac.
Pero nos ha quitado todo.
Mais là, ils nous l'ont enlevé.
Más o menos hasta aquí este abajo que se
ve. Et vous voyez toutes les dépôts blanches.
Oui, il y a des taches blanches.
C'était ça, le lac.
Là, en fait, normalement, on serait venu il y a quelques années, on serait au bord de l'eau, ici.
Sí. Sí, era hermoso. Era hermoso, lindo, era como decía... Grandes los peces eran.
Oui, il était merveilleux comme lac, très beau.
Grandes eran.
Puis il y avait des poissons énormes, maintenant ils sont tout petits, petits.
Pero después se ha secado con la contaminación.
Mais maintenant il a disparu, il est devenu de plus en plus sec, aussi à cause de plusieurs facteurs. La pollution, les paysans qui abusent de l'eau pour leurs champs, pour leurs animaux. Ça, plus la chaleur qui est de plus en plus forte et qui fait disparaître le lac.
Nosotros era una madre
pour nous, ce n'était pas la terre-mère, c'était l'eau-mère.
Y ella caminaba siempre a
et sus cette eau-mère, elle était toujours là pour nous protéger. Elle nous suivait pour protéger nos petites cahutes.
Il y avait la Pachamama, c'est la terre-mère, et vous aviez la divinité du lac, la mère de l'eau. Et c'était quoi son nom en Uru? Comment on l'appelait?
Mamacocha.
Mamacocha.
Nos protege siempre, decía mis abuelos, ¿no? Que camina alrededor de cada uno de nosotros.
Mère de l'eau, cette eau mère, continue jusqu'à aujourd'hui à nous protéger. C'est ce que me disait mon grand-père.
Même aujourd'hui que le lac a disparu, elle veille encore sur vous.
Sigue, sigue caminando. Sí. Ella viene, dice, en viento cuando es.
Et cette mère protectrice de l'eau arrivait avec le vent en général et avec les oiseaux. Il fallait qu'on déchiffre les différents sons des oiseaux. Et ça, on continue à le faire.
Et comment se communiquent ils à travers les aves qui existent dans le rio?
Ils nous parlaient à travers des oiseaux. Et les oiseaux, ils sont toujours là, dans les rivières, dans ce qui reste du lac, et ils continuent à nous parler.
C'est un paysage angoissant. Là, j'ai beau me balader au milieu des jolies fleurs jaunes dans un petit village complètement endormi qui est accroché à flanc de colline. On voit quelques cactus, mais on comprend très vite que normalement ici c'était une berge d'un lac. Et ce lac, il a disparu. C'est le lac Popo. Deuxième lac de Bolivie par sa taille, derrière le Titicaca, qui s'est tout simplement évaporé, déclaré officiellement asséché en 2015.
Je suis Félix Mauricio Souna.
Je m'appelle Félix Mauricio Suna. J'ai 81 ans.
Antes había lago, como 3 mètres había totor.
Avant, il y avait le lac et il y avait des joncs de plus de 3 mètres.
Antes había 38 aves selvas, había antes.
Avant, il y avait 38 types d'oiseaux différents.
Si. Ahora no hay aves, nada.
Mais aujourd'hui,
no hay lago.
Il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus rien, il n'y a plus de lac. Il n'y a plus notre lac Popo.
Et vous, vous êtes orphelin de votre lac?
Si, pues. Si. Ahora no lluvia.
Il n'y a plus de pluie maintenant, c'est pour ça qu'il est devenu sec.
Maintenant,
il n'y a plus beaucoup de moyens de survivre. C'est pour ça qu'on est en train de faire ces briques en adobe, en terre, qu'on vend.
C'est des briques de terre et de paille qu'on voit, et c'est vrai que vous êtes couvert de boue. Combien vous arrivez à gagner en vendant des briques de terre séchées comme ça?
Chaque brique vaut 1,20 bolivianos.
C'est-à-dire, c'est rien du tout, quoi. Et on voit que vous avez creusé les restes de... Entre les cabanons, vous avez creusé pour attraper le reste de limon qui restait pour faire ces briques et en vivre. Maintenant, voilà, il n'y a plus l'eau. Vous essayez de vivre de la terre qu'il y avait à la place du lac.
Peuple des lacs, les Oros ont toujours vécu de la totora, le roseau des Andes. Ils ont toujours construit des îles flottantes faites de roseaux, entassées au fil des ans. Pour eux, la terre, c'est l'eau. Depuis 700 ans, ils résistent aux civilisations qui les entourent. Aujourd'hui encore, ils sont un peuple à part.
Los Oros hemos sido los primeros habitantes pobladores en este mundo andino.
Nous autres, le peuple du lac, nous ne sommes pas des hommes. Nous ne pouvons pas nous noyer.
Lago Titicaca, Río de Segadre, Lago Popo, Lago.
Nous ne sentons pas le froid du lac pendant les nuits d'hiver. La poudre ne peut nous frapper. Nous ne sommes pas des hommes.
C'est pour ça, j'essaye, je ne veux pas mourir tant que mes enfants ne connaissent pas l'histoire, notre histoire, l'histoire de ce lac. Je veux leur raconter l'histoire.
Et c'est quoi l'histoire que vous voulez leur raconter avant de mourir?
L'histoire du lago, comment caminaba, comment agarraba las aves.
Je veux lui raconter l'histoire du lac, comment on vivait, comment on chassait les oiseaux.
Sí, esa historia grande ahí. Yo sé, a mi corazón estoy escribiendo.
Sí, pues. Cette histoire, ce lac, il est dans mon cœur. Tout ça, c'est écrit dans mon cœur.
¿Cómo está mi lago?
Ça veut dire comment ça va, mon lac.
Mon lac, voilà. Et vous? Vous dites ça devant un étendue absolument désertique et aride, ici dans l'altiplano bolivien, à 3800 mètres d'altitude, alors que le soleil nous cogne dessus. Vous êtes avec vos chats de peau de paille en train d'essayer de sortir des briques d'adobe pour faire vivre. Et vous pensez encore à cet ami lac qui est défunt. Gracias. Et comment on dit merci en Oulu?
Ancha suma huesquila.
Ancha suma huesquila.
Los Urus narran su historia como descendientes de una primera humanidad que habitó el altiplano andino en tiempos de la oscuridad.
But the lake is all but gone. No one around here makes it happen.
Que se secó por completo.
Je reviens du monde.
Bolivie, lac Popo, sur un lac devenu mirage.
Mi nombre es Pedro Román Vallejos Mamani.
Je m'appelle Pedro Norman Vallejos Mamani.
Docente de la Universidad Técnica de Oruro.
J'enseigne à l'Université d'Oruro.
Se ha expuesto con información científica que el efecto de secado del lago Popo
a été démontré dans beaucoup d'études que le réchauffement climatique et l'activité humaine sont les causes de l'assèchement du lac Popo.
Vous voulez dire, professeur, qu'en fait, si je comprends bien, ce lac Popo qui est en train de disparaître sous nos yeux, c'est presque une fable. D'un côté, le réchauffement climatique global qui vient ici avoir des conséquences dans la cordillère des Andes. De l'autre, l'activité minière qui contribue à relâcher des sédiments. Et enfin, le quinoa que nous autres occidentaux adorons et dont nous raffolons aggrave encore la situation du lac Popo qui bientôt n'existera complètement plus du tout.
El secado del lago,
l'assèchement du lac Popo,
pues es un problema ambiental, pero también es un problema humano.
Est un problème à la fois environnemental et humain.
El fenómeno cambio climático es evidente.
Le rôle du changement climatique est évident.
En los últimos 30 años, según
depuis ces 30 dernières années, d'après des données météorologiques,
30%
de pluie en moins arrive dans le lac. La température, pareil, augmente, produisant ainsi une plus forte évaporation.
La production de quinoa est importante.
La culture du quinoa est quelque chose de très important à Oruro.
Debido al alto precio de este cultivo,
et à cause de la hausse du prix du quinoa, beaucoup de gens ont utilisé de manière plus intensive leur sol pour cultiver du quinoa.
El principal afluente de agua al lago Popo es el río Desaguadero.
Ce qui alimente le lac Popo, c'est le fleuve Desaguadero, qui lui-même est alimenté par le lac Titicaca. Ça fait 300 km de cours d'eau, avec des milliers de dérivations pour l'irrigation, pour l'activité humaine.
Entonces, menor lluvia,
donc, moins de pluie,
mayor evaporación,
plus d'évaporation,
mayor
plus de sédimentation,
mayor polución,
plus de pollution.
Solamente un 20% de agua.
Il n'y a plus que 20% de l'eau du fleuve qui arrive au lac Popo.
Il en reste quoi aujourd'hui par rapport à auparavant?
3000 kilómetros cuadrados.
Ça faisait 3000 kilomètres de miroir d'eau.
Ahora estamos cerca
et maintenant, on n'en est plus qu'à 1000.
La tercera parte.
On n'en est plus qu'à un tiers.
Para recuperar el lago, creemos que es imposible.
On pense que c'est impossible que ce lac redevienne un lac un jour.
Ça veut dire que les pêcheurs Uru qu'on a rencontrés risquent fort de disparaître en même temps que leur lac, leur culture, leur mode de vie, pourtant millénaire.
Es una preocupación que poblaciones con culturas bien identificadas como los Urus.
C'est une grande préoccupation que ces peuples originaires comme les Ourous disparaissent et perdent leur culture.
Incroyable. Si on va marcher un peu, c'est quand même assez incroyable ce paysage. Alors il y a le vent qui souffle parce que c'est un désert, sauf que... c'est un désert qui ne devrait pas être là. C'est un désastre environnemental.
Une catastrophe écologique qui s'est aggravée en novembre 2015.
Et je vais enlever mon masque. Mais c'est un paysage délirant.
This is all that remains of Bolivia's once mighty Lake Popo.
Le deuxième plus grand lac de Bolivie a disparu.
La sécheresse prolongée et la déviation des cours d'eau est à l'origine de la disparition du lac.
La mort d'un paysage.
C'est une terre craquelée.
La disparition de toute trace de vie dans ce qui était auparavant un havre.
Désespérément aride.
Un désert de plus battu par le vent dans ces hauts plateaux boliviens.
Sur des kilomètres et des kilomètres.
Et là, on est en train de marcher. Devant moi, un des derniers habitants des rives de ce lac de l'ethnie Uru et qui nous fait visiter son lac disparu.
Yo soy Feliciano Álvarez de la comunidad de Yapayapane. Soy corregidor de mi comunidad.
Je m'appelle Feliciano Álvarez, je suis chef de ma communauté Yapayapani.
Les Ourous, ils ont toujours été des pêcheurs ici sur ce lac Popo.
Sí. Somos pescadores, por eso nos llamamos los hombres del lago Kotsuni.
Nous on est des pêcheurs et c'est pour ça qu'on nous appelle les hommes du lac.
Sí. Sí. Ya, pero se ven algunos restos de los botes, bailamonos, esas cosas.
On voit, oui, quelques restes des barques qui ont été abandonnées ici dans ces limans.
Está completamente desolado.
C'est un paysage complètement désolé.
No hay agua.
Il n'y a plus une goutte d'eau.
Y para llegar hasta el lago en este momento se necesita caminar como unos.
Et là, il faudrait qu'on marche encore 3 heures dans ce qui reste de ce lac pour arriver à l'endroit où il reste encore un tout petit peu d'eau. Ici, ce qui n'est pas près des prévisions des scientifiques, c'est censé que d'ici 200 ans, ce lac devienne un salar, comme le salar d'Uyuni, c'est-à-dire une grande mer de sel.
Pero lamentablemente con la sedimentación, la contaminación.
Malheureusement, avec la sédimentation venue d'activités minières et puis avec le changement climatique,
se ha adelantado 200 años este fenómeno de desastre en el lago Popo.
La disparition désastreuse du lac Popo a été avancée de près de 200 ans. Et là, on arrive. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est une boue de carcasse de bateau.
Et là, este.
C'est ça?
4 ou 5 mètres.
C'est un bateau qui faisait 4-5 mètres.
Bonito. Pour le moins, 20 barques
il y avait
ici.
Avant, il y avait peut-être 20 bateaux juste là, là où on est.
Et racontez-moi quand vous alliez pêcher. Vous aviez quel âge la première fois que vous êtes allé pêcher?
Si, yo he ido con esto, con 10 años.
Première fois que j'ai été pêcher dans le lac, j'avais 10 ans.
Esa vez había, bien pescado.
Il y avait plein de poissons, je me souviens. Ils sautaient partout.
Mi papá por eso pescaba con esto nomás.
Mon père, il pêchait avec des petits filets. Je me souviens, il y avait plein de poissons qui rentraient dans son filet. Et puis les oiseaux venaient, les mouettes venaient voir. Il y avait de la vie.
Los aves también ponían huevos por allá.
Je me souviens, quand j'étais petit, puis il y avait des algues sur le bord. Et puis des œufs d'oiseaux partout qu'on ramassait. C'était de l'eau douce.
Pas salée. Et il était profond, ce lac?
Si. 10 mètres.
Il y avait à l'époque environ 10 mètres de profondeur.
Ça veut dire que là où on est en train de parler en ce moment, normalement on serait sous l'eau, quoi.
Si. C'est certo. No se encuentra nada aquí.
Et puis tu vois, c'est un désert. On peut se perdre tellement c'est grand et tellement il n'y a rien.
Desaparecido, total. Si.
Donc Feliciano, là, les ruines qu'on a vues, qu'on a traversées en venant d'ici, c'est là où était votre village.
Si, dans la quinoa.
Si vous voyez là-bas, là où il y a le quinoa, bah avant, il n'y a pas Yapani, c'était là, la communauté. Mais là, on a dû la remonter plus haut. On est environ 350, les plus vieux, on est restés. Les jeunes sont partis.
Parce qu'il n'y a plus de travail, parce qu'il n'y a plus de vie, parce que vous n'avez plus de lac.
No hay fuente de trabajo, si.
Et en fait, nos ancêtres faisaient des offrandes là. Chaque année, on faisait en mois d'août ce rituel pour remercier la Cochamama. C'est la déesse du lac.
Cochamama.
Ça doit être que, en fait, on a oublié les rituels. Nous, on avait oublié et on n'a plus continué. Et donc, c'est pas assez pris soin de la déesse de l'eau. Et c'est un châtiment de la déesse de l'eau qui a arrêté de nous donner de la pluie et qui a asséché ce lac.
Ah, pour vous, ce qu'on est en train de voir là, ce paysage de désolation, ce lac disparu au milieu duquel on se trouve, c'est une punition divine.
Cochamama, si, si, es un castigo.
Et est-ce que vous allez pouvoir un jour apaiser la colère? Maintenant qu'il n'y a plus de lac, qu'est-ce que vont devenir les Uru?
Este año vamos a presentar a nuestro honorable alcaldía.
Et on a un projet, on en a parlé à la mairie, ce serait de construire une route qui va jusqu'à l'intérieur du lac et on se dit qu'on pourrait comme ça devenir producteur de sel.
C'est ça, les pêcheurs vont devenir des sauniers.
C'est
si. c'est ça qu'on veut.
Ça, c'est rigolo, mais c'est triste à la fois quand même.
C'est más o menos que tenemos. Las orillas que tenemos que unirte con ese estamos.
Ah oui, mais maintenant qu'on est là, au bord de ce lac qui n'existe pas, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse?
Voilà, c'est l'image qui est Rastara, c'est le chef des pêcheurs avec un bout d'épave, brinque-ballant, sur une mer interminable de sable, tout ce qui reste du lac où lui et ses ancêtres depuis des centaines et des centaines d'années vivaient en harmonie avec cet environnement qui est maintenant complètement disparu. Il ne reste plus que cet interminable désert. Et là je vois ça, je me baisse et je vois dans un sol complètement durci les dernières raies d'un filet pris dans la gangue de sel, qui est maintenant presque un témoignage archéologique d'une histoire révolue, celle où les Uru, le peuple du lac, ont pêché dans le Popo. Et ben on comprend que le monde d'après, c'est aujourd'hui pour eux, que leur monde a irrémédiablement disparu, emporté par la sécheresse et les dérèglements provoqués par les activités humaines. Voir le souffle coupé, pas tant à cause de l'altitude que par le constat de l'accélération de la disparition du monde d'avant. Un grand merci à Doña Rosemary, Don Feliciano et tous les habitants de Puñaca, Tinta Maria et Yapayapani. À Julian Arias, Pedro Vallejos Mamani, Xavier Lazaro, Marcos Andrade, Sébastien Hardy et Franck Poupeau. Retrouvez le podcast, les liens, les photos et même la version vidéo de ce reportage sur franceinter.fr avec Maëlle Mariette qui assurait la traduction, Clément Nouguier à la réalisation, Martina Baez, June Loper au montage et Mr. Jube à la programmation musicale.